Chapitre 34. Francesca est cachée parmi les chaussures et les parapluies, coincée dans la penderie entre des vêtements d'hiver suspendus, des chaises pliantes, des sacs de bouteilles vides, une planche à repasser et un escabeau. Elle tient la petite poignée en porcelaine intérieure de la porte. Le silence est de nouveau total. Son pouls bat à tout rompre lorsqu'elle entr'ouvre la porte pour tendre l'oreille. Il lui semble entendre l'intrus quitter la cuisine et s'arrêter dans le couloir. S'il monte à l'étage, elle pourra traverser silencieusement le couloir, passer dans le salon et sortir par le jardin de derrière, puis courir à travers les différentes parcelles jusqu'à ce qu'elle croise un voisin. « Aide-moi, mon Dieu !» prie-t-elle silencieusement. « Viens me sauver. Amen. Maranatha, viens me sauver. Seigneur Jésus, viens me sauver. » Le petit claquement des pattes d'Oki sur le parquet s'approche dans le couloir, suivi de pas plus lourds. Elle referme la porte et tient fermement la poignée de porcelaine dans la main afin que celle-ci ne s'ouvre pas. Oki s'arrête devant le dressing. Elle retient son souffle. Les pas continuent d'avancer. La silhouette passe devant la porte et se dirige vers la chambre d'amis. Francesca se souvient que son sac et sa veste sont posés sur le lit. Elle prend une profonde inspiration. Il entre maintenant dans la chambre d'amis et s'arrête. Il a dû comprendre qu'elle se trouve toujours dans la maison. Il retourne dans le couloir et ouvre la porte des toilettes. Lorsqu'elle s'est précipitée dans le dressing, son pied gauche s'est retrouvé coincé dans un angle étrange contre une paire de grosses bottes et il est maintenant complètement engourdi. Il faut qu'elle change de position. Lorsqu'elle essaie, des bouteilles vides contenues dans un sac en plastique s'entrechoquent. Le couloir est soudain silencieux. Sa main tremble sur la poignée en porcelaine. Elle pense à Johnny. Il faut qu'elle lui parle en tant que psychologue. Il doit être possible de l'atteindre par les mots. Dévorée par l'angoisse, elle essaie de se souvenir de ce qui le calmait lorsqu'il était son patient. L'intrus reprend sa marche et passe devant le dressing. L'escalier grince sous ses pas. Francesca reconnaît le carillon des perles du rideau qui s'entrechoquent à l'étage. Elle entr'ouvre de nouveau la porte et entend les pas qui continuent de résonner. Elle retient son souffle et sort la tête. Le couloir est plongé dans le silence. Une menace extrêmement grave et imminente a averti le policier. Était-il au courant qu'il avait acheté une nouvelle ceinture explosive et qu'il était en route pour aller la voir? Le rideau de perles devant la chambre de sa sœur s'est tu. Lorsque Francesca quitte l'armoire, la planche à repasser glisse sur les vêtements d'hiver suspendus. Ses genoux sont engourdis, mais son corps est bourré d'adrénaline. Elle court jusqu'à la porte vitrée du salon et heurte le tabouret à côté du fauteuil. Ce n'est que lorsqu'elle est devant la porte-fenêtre donnant sur la petite terrasse qu'elle se rend compte que celle-ci est verrouillée et qu'elle a laissé la clé sur le plan de travail de la cuisine. Le rideau de perles à l'étage laisse de nouveau entendre son bruissement. Elle s'agenouille et ouvre la trappe de la chatière. Tout son corps tremble lorsqu'elle s'allonge sur le sol. Elle tient la petite porte ouverte avec sa main et passe sa tête dans le trou. Des nuages traversent le ciel lumineux de fin de journée. Elle ne peut plus voir si l'intrus est dans le salon derrière elle et éprouve soudain un sentiment de panique. C'est comme lorsqu'enfant, on était poursuivi et qu'on savait qu'on allait être attrapé. Cette seconde où on hésite entre abandonner et continuer à courir. Elle parvient à faire sortir ses épaules, mais ses bras sont toujours bloqués le long de son corps. Elle sent quelque chose lui égratigner le dos. Oki aboie derrière elle. Elle pousse de toutes ses forces avec ses jambes et réussit à dégager ses bras. Elle pose ensuite ses mains contre la porte, mais sans qu'elle est bloquée. Le rabat de la chatière est retombé et s'accroche à la ceinture de son jean. Elle glisse à nouveau une main à l'intérieur du trou et commence à se tortiller pour sortir quand quelqu'un lui attrape un pied. Elle est tirée vers l'intérieur. Elle résiste, s'appuie sur la porte avec sa main et donne des coups de pied à tort et à travers. Elle réussit soudain à se libérer et se glisse à l'extérieur. Elle se cogne un genou sur le sol de la terrasse et pousse un cri de douleur. Francesca s'éloigne en rampant sur les dalles, se relève et commence à courir lorsqu'un coup de feu retentit. Des éclats de verre et de bois sont projetés derrière elle. Elle saute par-dessus la clôture basse, traverse le jardin du voisin, passe devant des chaises longues et un parasol. Elle enjambe rapidement une haie et traverse le jardin suivant. Il fait sombre lorsqu'elle passe devant une véranda vitrée, meublée de fauteuils en osier. Elle enjambe un muret, s'égratigne les bras sur des framboisiers, avance dans de la terre meuble et trébuche sur la pelouse. Un homme est en train de faire griller des brochettes de poulet et deux enfants sautent sur un trampoline. Francesca est terrifiée et ses pensées sont chaotiques, mais elle sait qu'elle ne peut pas lui demander de l'aide. Si Johnny déclenche sa ceinture explosive, les enfants mourront. L'homme la regarde d'un air confus et recule d'un pas, la pince à barbecue à la main. « Rentrez tout de suite chez vous !» dit-elle, haletante. « Emmenez les enfants, fermez les portes et appelez la police !» Elle continue à courir à travers les jardins, croise un chemin étroit, se faufile entre des buissons, longe deux petites serres, sans rencontrer personne. Ce n'est que quand elle aperçoit l'église de Bethel qu'elle s'arrête, à bout de souffle. Son dos est trempé de sueur, et ses jambes tremblent lorsqu'elle se remet en marche. La peinture blanche de la façade est écaillée. Elle sait que le double des clés de la petite église se trouve dans une pierre creuse entre les fraisiers, à côté de l'escalier.